Le voleur de panda par Alain Surget. Première cassette, deuxième face, page 26. Lee hésitait à le suivre maintenant qu'il se sentait découvert. Mais ce pouvait n'être qu'une impression. Le vieux ne s'était peut-être rendu compte de rien. Fallait-il prendre le risque de continuer ? Lee songea aux paroles de son père, qui affirmait que lorsque l'on avait choisi une voie, on devait la suivre jusqu'au bout, ne jamais abandonner avant de connaître l'issue. Son père tenait cet enseignement de ses aïeux qu'il avait eux-mêmes appris avant lui. Li Feng se devait de respecter la tradition, mais saurait-il équilibrer sa peur et son envie de découvrir le yin et le yang pour retrouver son harmonie, son courage et devenir mouvement ? Il ferma les yeux, aspira une grande goulée d'air. Il réussit à apaiser les battements de son cœur, à maîtriser le tremblement de ses mains et de ses jambes. La lune se dégagea d'un rouleau de nuages, éclaira la silhouette du bonhomme qui se hâtait vers les rues basses. Il se dirige vers le port. Je dois le suivre avant qu'il ne s'échappe. Li Feng emplit d'air ses poumons et se mit à courir pour le rattraper. Chapitre 4. Le sampan rouge. S-A-M-P-A-N. Un sampan, c'est une embarcation à fond plat que l'on fait marcher à la godille. La godille, c'est une sorte de rame qui est placée à l'arrière de l'embarcation et que l'on remue en hélice de façon à faire avancer le bateau. À mesure que l'enfant s'approchait du port, la nuit s'emplissait d'une forte odeur de mazout. Par moments, des effluves à soulever le cœur s'échappaient des usines chimiques et venaient s'enrouler autour des maisons situées dans le bas quartier. Le port était compartimenté en bassins, abritant des bateaux de toute taille et de tout gabarit. Les eaux stagnantes, collées contre les murs des bassins, exhalaient des miasmes putrides. Elles luisaient sous les lumières des lampadaires, avec des reflets violacés, si grasses, si épaisses, qu'on aurait dit des croûtes de peinture. Les bateaux étaient immobiles, noirs et lourds sur ces huiles figées. Au-delà, vers le milieu du fleuve, l'eau semblait plus vive, gonflée d'un courant qui agitait une kyrielle de jonques et de sampans. Les jonques, ce sont des bateaux à voile, dont les voiles sont raidies par des lattes en bambou. Une kyrielle de jonques et de sampans les faisant danser sur leurs quilles au bout des amarres. L'air vibrait d'un léger bourdonnement qui était comme la respiration du port. Des câbles grinçaient sur des poulies, le vent passait en sifflant entre les mailles des grues alignées sur le ponton, telles des pattes des châssiers. Le petit homme, sa caisse toujours sur le dos, délaissa tout à coup le quai pour obliquer vers les énormes cuves à pétrole. « Tiens, » s'étonna Li Feng. « Allait-il retrouver quelques complices ? Que ferait Li alors ? S'en retournerait-il avertir la police ? Elle risquait d'arriver trop tard. Et puis, le croirait-elle seulement ? Se précipiter vers les hangars, jeter l'alarme chez les gardiens ? C'était risqué. Le voleur avait peut-être des hommes à lui parmi eux. Le plus simple était encore de le suivre à distance. L'enfant atteignit la première citerne, la contourna en longeant sa base. Il attendit quelques secondes, l'oreille en alerte, prêt à détaler au moindre danger, puis bondit vers la deuxième. Il progressa ainsi, de saut de puce en saut de puce, jusqu'à l'extrémité de la zone portuaire. Chongqing s'interrompait brutalement contre la campagne, comme accolé à une vaste plénitude. Le vent semblait plus libre de s'attaquer aux chevilles. L'air était plus frais, les bruits plus souples, plus filés, glissant au ras des herbes et de l'eau, d'une origine plus lointaine, plus mystérieuse que les soupirs du port. Les sons de l'espace semblaient apporter l'écho de quelques légendes, soufflées d'un frimas d'étoiles. Le vieil homme s'enfonça dans la terre. Li ne put s'empêcher de s'exclamer tout haut. « Ah, ça alors, il a disparu !» En avançant, l'enfant découvrit un canal d'évacuation des eaux usées. Un gros tuyau, du diamètre de la taille d'un homme, saillait d'un rempart de terre et s'arrêtait au-dessus d'un fossé. L'eau drainait les saletés de la ville vers le Yangtze-Kiang. Elle coulait à ciel ouvert sur une centaine de mètres, avant de disparaître sous un tunnel, puis de dégorger à gros bouillons dans le fleuve. Li Feng distingua une masse noire à l'entrée du souterrain. C'était la caisse que l'homme avait déposée sur des planches liées entre elles et qu'il manœuvrait pour la placer dans l'axe de la galerie. Le garçon entra dans l'eau à son tour. Il pataugeait jusqu'aux genoux, serrait les dents pour surmonter son dégoût. Il craignait à chaque seconde que l'autre n'entendît ses clapotements. Le sol s'abaissa soudain et Li s'enfonça jusqu'aux épaules. Il connut un instant de panique, se figea, incapable d'avancer ni de reculer. Il avait atteint la bouche du tunnel et se sentait paralysé devant ce puits noir. Le fond descendait-il encore? Et si la voûte se refermait à fleur d'eau, comment ferait-il pour respirer? Il réfléchit, estima que ce n'était pas possible, que la caisse ne pourrait pas franchir le boyau si le plafond était trop bas. « Du courage, se répétait-il, du courage. S'il est passé, je dois y arriver aussi. » Il s'enhardit et s'engagea dans le souterrain. Il fut tout de suite frappé par l'écho des clapotis sous la voûte. Le voleur était forcé de l'entendre. Li Feng finit par se rassurer en se disant que les bruits du bonhomme couvraient les siens. Il étendit les bras, ses doigts frôlèrent un rebord large d'une main qui courait le long de l'égout. Noyé dans une obscurité totale, il s'aida de la bande de pierre pour se guider du bout des doigts. Quelque chose de vivant effleura tout à coup sa main, suivi d'une série de crépitements, une fuite de griffes. L'enfant faillit pousser un cri, eut l'instinct de replier son bras. De petits yeux s'allumèrent dans les ténèbres, serrés, innombrables, sortant de tous les trous. Il frémit, des rats, des dizaines, des centaines de rats. Il resta immobile au milieu de l'eau, les coudes pressés aux flancs, terrorisé à l'idée qu'ils allaient se jeter sur lui. Il s'apprêtait à hurler au secours quand un éclair de conscience lui rappela que les rongeurs détestaient l'eau, que seul un danger pouvait les contraindre à plonger. Li tremblait de tout son corps, il étouffait de peur, mais se força néanmoins à avancer. Il progressa très lentement, tâchant de garder une distance suffisante entre les petits yeux brillants et lui. Il remarqua que le tunnel faisait un coude sur sa gauche, puis un autre sur sa droite. Enfin, il aperçut les miroitements du fleuve au bout du conduit. Li Feng poussa un soupir de soulagement quand il retrouva le crachotement des étoiles au-dessus de lui. La horde de rats s'était arrêtée à l'issue du souterrain, bloquée par deux murs qui terminaient les rebords. Mais où est le voleur? L'homme s'était volatilisé. Il n'a pas pu aller très loin avec son fardeau. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant, incisif, comme un coup de couteau. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement des crues, la longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. Le silence à nouveau. Bleu et froid, collé à la bruine qui s'était remise à tomber. Le garçon marchait le long de la rive. Un froissement de vent. Li se jeta à plat ventre. Rien. Ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Il y en avait tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté du Yangtze-Kiang. « Rien à faire, ronchonna-t-il en se levant. Cette fois, je l'ai vraiment perdu. » Il s'apprêtait à s'en retourner lorsqu'il perçut un raclement, un bruit différent du murmure continuel des roseaux. Il tendit l'oreille, distingua un clapotement qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge, puis le crissement des tiges contre une masse dure. Li Fong eut juste le temps de se dissimuler dans les hautes herbes que l'écran des roseaux s'ouvrit, fendu en deux par une étrave. Un sampan sortit de l'ombre. Sa voile unique chercha le vent en frémissant, il vira d'un quart de tour sur sa quille, glissa vers le milieu du fleuve. L'enfant se redressa d'un bond. « Le voleur, il s'échappe !» Il piétina un court instant, désemparé, hésitant à s'élancer dans une direction plutôt que dans une autre. Il lui revint à l'esprit que des gamins pêchaient parfois dans de minuscules embarcations. « Peut-être, se dit-il, et il plongea entre les roseaux, le cœur gonflé d'un ultime espoir. Il pataugea dans l'eau, fouillant les herbes avec ses bras pour tâcher de dénicher un radeau sous la végétation. Il effraya une colonie d'alouettes qui avait fait de l'endroit leur dortoir. Les oiseaux jaillirent par flopper dans un grand froufroutement d'ailes. Li Fong commençait à se désespérer de ne rien trouver quand ses doigts rencontrèrent quelque chose. « Enfin » souffla-t-il. Il tira. L'embarcation vint à lui. Il la débarrassa des herbes, des mousses, des roseaux qui la recouvraient et grimpa dessus. C'était une plateforme de bambou surmonté d'une bâche tendue sur des arceaux. Il agrippa une perche, l'enfonça dans l'eau, pesa de tout son poids pour dégager le petit sampan de la rive. Quand il sentit les eaux libres sous lui, plus souples, plus ondoyantes, il reposa sa gaffe, saisit l'aviron et se mit à godiller de toute la force de ses 12 ans. Je te rappelle que godiller, c'est servir de la godille, cette espèce de rame qu'on manœuvre en suivant une courbe assez compliquée à l'arrière du bateau pour le faire avancer. Maintenant qu'il naviguait sur l'immense fleuve bleu, il sentait la peur lui serrer le ventre. Jusqu'où l'autre allait-il le mener? Que dirait son père au retour de l'usine, ne le trouvant pas? Li s'en voulait de ne pas avoir écrit un mot pour le rassurer avant de s'élancer sur les traces du voleur de panda. Que faire? Retourner? Il n'en était plus question. Il était le seul à savoir que le voleur était encore à Chungking. Même la police avait baissé les bras, le croyant loin déjà. Abandonner maintenant, c'était ouvrir la voie à d'autres vols. Et puis, son père ne serait pas peu fier d'apprendre plus tard que Li Fong avait contribué à l'arrestation du singulier malfaiteur. Cette pensée lui redonna courage et il s'activa à se glisser dans le sillage du sampan. Une aube timide étirait des ombres violettes sur le fleuve. Le soleil montait lentement à l'orient, essaimant sa poudre d'or à travers un écran de brume. Le Yangtze Kiang s'animait de jonques oscillantes, s'habillait de voiles dressées comme des ailerons. Li Fong avait dépassé Chongqing depuis longtemps, et les digues qui embrigadaient la voie d'eau finissaient de s'abaisser dans les champs. En cette période de l'année, le fleuve, gonflé par les pluies de la mousson, roulait des flots boueux et s'étalait largement dans la campagne, noyant une multitude de parcelles. Mais c'était un mal nécessaire, car à la décrue, qui s'amorçait déjà, il laissait derrière lui ses alluvions fertiles. Le sampan se dirigeait vers l'amont, croisant des embarcations qui se laissaient porter par le courant, toutes voiles repliées, depuis les villages jusque vers la ville, poussées par le vent du sud-est. Plus tard, à l'approche des falaises, les jonques des pêcheurs se firent plus rares. L'enfant se rendit alors compte que le bateau qu'il poursuivait était entièrement peint en rouge. Il s'engagea derrière lui, entre de fantastiques coulées de calcaire, d'immenses cônes de roches moussues. Il régnait un silence minéral. L'air semblait avoir épaissi, planant telle une menace. Li Fong rentra la tête dans ses épaules. La gorge qui longeait lui donnait l'impression d'être une tenaille de pierre qui n'attendait que de se refermer. Il se sentait insignifiant, déjà broyé. Ses bras étaient lourds de fatigue, à force de manier la godille, mais sa volonté l'emportait. L'autre ne devait s'échapper à aucun prix. Quand il sentait que la barre du gouvernail lui glissait entre les doigts, il la remuait avec rage, cherchant dans la colère un sursaut de vigueur. « Allons, grinçait-il, le voleur est vieux et le gros sampan, même avec sa voile, doit être lourd à manier. » Il avait faim, soif, sommeil. il ne pourrait plus tenir très longtemps. Il se rassura en songeant qu'il pouvait arrêter la poursuite à son gré quand ses forces lui feraient cruellement défaut et qu'il n'aurait rien à se reprocher parce qu'il aurait vraiment tenté le maximum. Et puis, il fit la moue. L'idée d'abandonner lui plaisait guère. Il se mit à godiller de plus belle, inquiet tout de même. Comment cela va-t-il finir ? Le défilé faisait un coude, hérissé de sombres murailles contre le ciel. Des oiseaux blancs volaient contre la roche, plongeaient parfois, filaient au ras de l'eau en jetant des cris rauques.
Tia, tia !
Ils vinrent tourbillonner au-dessus de la frêle embarcation, agaçant l'Ifong de leur boitement d'ailes. Le garçon les menaça de sa perche, mais ils se contentèrent de ricaner, claquant du bec. Les oiseaux l'accompagnèrent jusqu'au bout de la gorge, nichés par paquets sur la barge, picotant les attaques, poussant l'audace ou l'insolence à vouloir s'installer sur la barre. L'enfant les chassait à coups de poing, à coups de pied, mais ils revenaient tenaces, l'accablaient de piaillements furieux.
Tia, 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 tia.
Ils s'arrachèrent enfin d'un vol lourd, un à un, réticents. L'horizon s'ouvrit brusquement, libéré de sa gangue de pierres. Les berges avaient reculé, enfouies sous une population dense de roseaux, à tel point que la frontière entre l'eau et la terre devenait imprécise. Li octa de stupeur. Non, mais ce n'est pas possible. Le sampan rouge avait disparu. Pendant un instant, l'enfant se dit qu'il allait le voir réapparaître devant lui à un détour du fleuve. Il godilla à la limite de ses dernières forces. Mais rien. Rien que l'étendue des flots à perte de vue et la montagne qui se dessinait dans le lointain comme un ruban flou posé en travers de l'eau. Li Fong laissa tomber les bras de long de son corps. C'était fini. Fini. L'épuisement le saisit. Il s'affaissa sur ses genoux. C'est alors que les roseaux s'écartèrent. D'un coup, la masse du sampan surgit par derrière, fonça droit sur l'enfant. Un choc terrible. Li Fong fut projeté en l'air, tandis qu'éclatait son bateau dans un craquement épouvantable. Il retomba dans l'eau, au milieu de morceaux de bambou qui dégringolaient de toutes parts, comme soufflés par une explosion. À demi assommé, Li cherchait à battre des bras pour remonter à la surface, mais son corps était lourd, lourd, si lourd qu'il n'avait plus la force de le remuer. « Je dois garder l'air !» se répétait-il. « Gardez l'air, gardez l'air !» Sa tête bourdonnait, des mouches noires dansaient devant ses yeux. Il expira l'air lentement en un long chapelet de bulles, puis, n'y tenant plus, libéra sa poitrine dans un souffle. Le sang lui battait dans les tempes, ses poumons brûlaient, une douleur sourde commençait à mordre son crâne. Toucher le fond, remonter, hurlait son cerveau en détresse. L'enfant coulait. Il se perdit dans les eaux sombres. Chapitre 5 sur le Yangtze-Kiang. Des ballons rouges tournoyaient, éclataient autour de lui. Respirez, d'abord respirez, par à coup, pour éviter que l'eau n'entre en une seule fois dans les poumons. Il fallut à Li Fong un certain temps pour se rendre compte de l'énormité de ses pensées. Il bloqua sa respiration dans un réflexe de défense, retint l'air, faillit s'étouffer et toussa tant qu'il put. Un éclair de conscience le ramena à lui, lui rendit sa logique. Il ne se noyait plus pas, il n'était plus dans l'eau, il était couché et il sentait le sol bouger. L'enfant ouvrit les yeux. Il vit d'abord un toit de lattes auquel pendaient des lampes à gaz, des filets, des sacs qui oscillaient de droite à gauche, d'un mouvement lent et régulier, des grattements tout près. Li tourna la tête, poussa une exclamation de surprise, le panda. Enfermé dans une cage métallique, l'animal était occupé à croquer des pommes et des épis de maïs. Il leva à peine les yeux sur le garçon qui avait pris le cadenas dans sa main et jugeait de sa robustesse en le faisant claquer contre les barreaux.
Nous sommes tous les deux prisonniers dans le sampan rouge, chuchota l'enfant.
Il poussa un profond soupir. et regarda autour de lui. L'habitacle était encombré d'un fouillis d'objets, de paniers empilés, d'énormes sacs entassés, d'où pointaient d'étranges bosses, laissant tout juste la place à une natte d'ajonc qui servait de lit. Les panneaux démontés de la caisse étaient calés sur les ballots et faisaient office d'étagère pour les aliments. Lee s'approcha de la porte de bambou et la poussa. Il s'étonna de la voir s'ouvrir, sûr que l'autre l'avait enfermée. Le voleur était debout sur le rebord étroit du sampan, maniant sa gaffe. Il tournait le dos à l'enfant, mais sentit sa présence derrière lui. Le Yangtze a rendu son poisson, dit-il, avec un petit rire. Le bateau était au milieu du fleuve.
Plonger, fuir, pensa le garçon.
Quelque chose le retint. Pas la peur, non, mais une vague impression d'inutile. L'autre le capturerait sans peine. Et puis l'enfant se dit que si le voleur ne l'avait pas tué tout de suite, c'est qu'il ne le ferait sans doute pas. Cependant, il valait mieux éviter de le provoquer. Li Feng se souvenait de l'expression méchante de ses yeux. Il s'assit, regarda fixement devant lui, sachant surveiller du coin de l'œil.
C'est vous qui m'avez sauvé ? Demanda-t-il enfin pour rompre le silence.
Et parce qu'il craignait que son mutisme n'indisposât le vieil homme.
« C'est moi, » fit l'autre en redressant sa perche.
« Mais c'est vous aussi qui avez fracassé mon bateau. Alors, il faillit ajouter, « alors c'est normal de m'avoir sorti de l'eau. » Mais se retint à temps. Le bonhomme ne répondit pas et Lee comprit sa maladresse. Il était inutile de jouer au plus fin avec le vieux renard. Le voleur avait bien compris que l'enfant le suivait. D'ailleurs, il n'avait pas craint de le mettre en présence du panda. En y pensant, le garçon sentit tout espoir s'évanouir. Le voleur ne les laisserait pas repartir. Li Feng se tassa un peu plus sur lui-même, un poids énorme dans le ventre. « Mon nom est Shao Laongtse, C-H-A-O-L-A-O-N-G-T-S-E-U, reprit l'homme en plongeant son bâton dans les eaux du fleuve. Mais appelle-moi Ming, M-I-N-G. » Le fait que l'enfant connût désormais son nom le scellait pour toujours au voleur. Il releva un visage baigné de larmes et octa. « Mon père va prévenir la police !» Ming émit un petit gloussement. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as décidé de partir seul. Ton père ne l'aurait pas permis si tu l'avais mis au courant. »«
Et ça change quoi ?» demanda Lee d'une voix aiguë où pointait un début de panique.
Mon père préviendra la police, c'est vrai, mais elle se bornera à une enquête de routine. Il y a tellement de jeunes qui fuguent, qui traînent, qui disparaissent à Chongqing.
C'était dit sur un ton amer, presque de violence. Li Feng attendit un moment, un long moment, avant d'oser demander.
Qu'allez-vous faire de moi ? « Laissez-moi repartir. Je ne dirai rien, je vous le promets. »
Un des sept piliers de la sagesse est de n'accorder aucun crédit à celui qui a peur. Tu vas me suivre, de gré ou de force.
Et pourquoi ?
Pour apprendre. Du moins, je l'espère.
Apprendre ? S'écria l'enfant. Et qu'est-ce que je peux apprendre d'un voleur ?
Le vieil homme ne répondit pas. Il laissa glisser la gaffe entre ses doigts. Puis l'arrêta d'un geste sec. Il parut réfléchir un instant, puis demanda.
« Et toi, comment dois-je t'appeler ?»«
Li Feng. » »«
Eh bien, Li Feng, va donc remplacer le cordage qui tient la barre. »
À mesure qu'ils approchaient des villages, les bateaux se faisaient plus nombreux, glissant sur l'eau comme des corolles. Ming maintenait le sampan bien au milieu du fleuve, passant les bourgades les unes après les autres. Le Yangtze-Kiang finit par se resserrer entre des berges plus élevées et le sol se bosselait de collines. Des rizières en terrasse apparurent sur les versants, disposées comme des marches au flanc de gigantesques pyramides. C'était l'époque de la récolte. Cramponné à la barre, Li distinguait d'innombrables faucheurs qui avançaient, courbés en deux. D'un même mouvement, ils lançaient la faucille, mordaient dans les tiges, emportait à chaque coup une entaille ronde.
D'autres dressaient les herbes en moyettes. Ce sont des petits tas de gerbes qu'on dresse pour les faire sécher. Derrière eux, et déjà des champs entiers se couvraient de cônes d'or. Arrêtons-nous ici, commanda Ming. Ils avalèrent rapidement un bol de riz, en silence, s'étudiant à la dérobée. L'enfant avait l'impression que le vieil homme souriait sans cesse, mais en l'observant mieux, il se rendit compte qu'un pli barrait le bas de son visage, lui conférant cette singulière bonhomie que démentait l'éclat sauvage de ses yeux.
« Va nourrir le panda !» dit l'homme en tendant la main pour que Lee lui rende son bol.
« J'ai encore faim !» protesta le garçon.
« Plus tard. Je n'ai pas assez de réserve pour le voyage. Tu n'étais pas prévu. »
L'enfant bougonna. Fit remarquer qu'il avait donné des pommes à Kim il y avait moins de 2 heures.
« Un panda mange 10 heures par jour. Je tiens à ce qu'il arrive en bonne santé.
Où ?» risqua Lifong. Le voleur ne répondit pas. Il lui indiqua d'un mouvement sec du menton d'aller retrouver l'animal. Le garçon jugea plus prudent de se taire et d'obéir. Le panda l'accueillit par un petit grognement et vint se frotter au barreau de sa cage. L'enfant le caressa, lui parla doucement. Il lui confia sa peur, évoqua son père qui devait être fou d'inquiétude. « Nos sorts sont liés, termina-t-il. Quand ce méchant homme se sera débarrassé de toi, il se débarrassera aussi de moi. Je vais essayer de nous sortir de là à la première occasion. » Il alla ouvrir un sac de maïs, apporta des épis au panda, se saisit d'une pomme et ne ressortit qu'après l'avoir croqué.
« J'espère qu'il en reste !» le reçut Ming d'un ton acerbe.
Il s'était remis à pleuvoir. Le ciel avait perdu sa teinte de lessive, mais le vent tordait les derniers nuages pour leur arracher leurs ultimes gouttes de pluie avant de se retourner complètement et de souffler des montagnes. À la saison des pluies, la mousson d'été, chaude et humide, souffle de la mer vers la terre. À la saison sèche, en revanche, la mousson d'hiver, froide et sèche, souffle de la terre vers la mer. Le regard perdu sur les collines, Lifong voyait défiler leur dos rond d'un air morose. Fin de la deuxième face de la première cassette, Le voleur de panda par Alain Surget, page 45.